Merci d'écouter RFI et bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 9h à Port-au-Prince, 15h ici à Paris.
RFI Midi. Anne Contenaire.
C'est la suite de notre journée spéciale consacrée à la situation en Haïti sur RFI. Nous allons parler durant la prochaine demi-heure de la très grande difficulté à informer avec plusieurs de nos confrères en Haïti et en exil. Mais tout de suite, on va faire le point sur les dernières infos. L'actualité des dernières heures, résumée par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne Contenaire, bonjour à tous.
Et pour commencer, le procès d'un naufrage tragique qui s'était produit en juin 2023 au large de la Grèce.
Oui, ce matin au palais de justice de Kalamata, la justice grecque a finalement abandonné toutes les charges qui pesaient sur 9 Égyptiens accusés d'être à l'origine de l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée, Égyptiens, Pakistanais, Syriens. Au total, plus de 600 personnes auraient trouvé la mort. La Cour s'est déclarée incompétente pour juger cette affaire qui s'est déroulée en dehors du territoire grec, dans les eaux internationales. Joël Bronner, vous êtes en direct de Kalamata. Comment le verdict a-t-il été accueilli et y aura-t-il une suite judiciaire à ce naufrage de Pylos ?
Eh bien, c'est donc la fin en Grèce des poursuites contre les 9 Égyptiens qui étaient accusés par Athènes à la fois d'être des passeurs et d'être à l'origine du naufrage du bateau de migrants. Un peu avant 13h, heure locale, le tribunal de Kalamata a mis fin au procès qui venait de démarrer le matin même. Dans la salle d'audience, le verdict a été accueilli par des applaudissements, des manifestations de joie et un cri « Vive la justice !». Les accusés égyptiens se sont pris dans les bras les uns des autres. Certains ont même également embrassé les rares membres de leur famille qui avaient fait le déplacement jusqu'à Kalamata. Dans cette affaire, le rôle trouble des gardes-côtes grecs a été maintes fois souligné, mais aucun d'entre eux n'était poursuivi dans le procès qui vient de s'achever. En septembre dernier, en revanche, 40 survivants du naufrage ont porté plainte de leur côté. Cette plainte a cette fois pour objectif de faire la lumière sur les circonstances précises du naufrage. De nombreux témoignages de rescapés incriminent donc en effet les gardes-côtes qui auraient tenté de remorquer le bateau dont le moteur était défaillant. La fin du procès d'aujourd'hui ne marque donc pas forcément la fin de l'histoire judiciaire du procès du naufrage de Pylos.
Merci Joël Bronner en direct de Kalamata en Grèce.
C'est la suite de notre journée spéciale consacrée à la situation en Haïti. On en parle tout au long de la journée. On y reviendra dans quelques minutes pour parler de la liberté de la presse et de la difficulté d'informer. Et en attendant, on va se pencher sur la situation au quotidien. Un mois quasiment après la prestation de serment du Conseil présidentiel de transition.
Oui, les Haïtiens lui reprochent d'être plus accaparés par ses luttes internes que par l'intérêt du pays. L'impatience de la population augmente ainsi que la pression sur ce Conseil. Notre correspondante Marie-Andrée Bélange a interrogé Jackson, un habitant de Port-au-Prince. Pour lui, c'est toute la classe politique qu'il faudrait renouveler pour que les lignes bougent.
En Haïti, presque toutes les crises résultent des méfaits des hommes et des femmes politiques, incapables de se hisser à la hauteur de leurs responsabilités. À aucun moment, ce pays n'a pu compter sur ceux et celles qui font de la politique, malheureusement, puisqu'ils se sont toujours arrangés pour détruire les institutions ou les garder en coupe réglée. Ainsi, ils peuvent voler, mentir, corrompre, piller le trésor public sans jamais devoir rendre des comptes. Leurs promesses, généralement, sont fallacieuses et ne tiennent que le temps d'un ciment. Et s'ils font de la politique en réalité, ce n'est pas pour respecter des promesses faites au peuple, mais simplement pour s'enrichir au détriment du bien-être collectif. Et entre-temps, la société sombre dans une violence inouïe imposée par des gangs armés, comme on le voit, et dont la population paye les frais. Et malheureusement, c'est cette même classe politique qui est tout le temps portée aux affaires par l'influence des acteurs internationaux, parce que justement, elle leur est redevable. Je crois qu'il faut définitivement au pays une nouvelle classe d'hommes et de femmes honnêtes qui puissent rediriger la destinée de cette nation, sinon ce sera toujours la même histoire.
Jackson, un habitant de Port-au-Prince avec Marie-Andrée Bélange. Le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, a réclamé hier des mandats d'arrêt internationaux, aussi bien contre les principaux dirigeants israéliens que contre les cadres du Hamas. Les réactions sont dans l'ensemble contrastées. Aux États-Unis, la démarche du procureur a été jugée scandaleuse par le président Biden et honteuse par son secrétaire d'État Anthony Blinken, récit de notre correspondant David Thompson.
Il est plutôt rare d'entendre Joe Biden exprimer publiquement sa colère, mais après la demande de mandat d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le leader du Hamas Yahya Sinwar par le procureur de la CPI, le président américain, qui célébrait justement le même jour le mois de l'héritage juif aux États-Unis, ne mâche pas ses mots.
Je vais être clair. Nous rejetons la demande de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le leader israélien. Quelles que soient les implications de ce mandat, il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas.
Le président américain qui en profite pour réitérer la position de la Maison-Blanche au sujet de l'usage du mot génocide.
Il est clair qu'Israël veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la protection des civils. Contrairement aux allégations formulées par la Cour internationale de justice à l'encontre d'Israël, ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide. Nous rejetons cette idée.
Une position contestée jusque dans son propre camp qui risque de coûter cher à Joe Biden en novembre. Son soutien à Israël lui vaut une chute de popularité au sein des minorités, un électorat pourtant clé pour remporter l'élection présidentielle dans 6 mois. David Thompson, Miami, RFI.
L'autorité palestinienne annonce la mort de 7 personnes tuées ce matin par des tirs israéliens à Jenin, ville du nord de la Cisjordanie occupée. Les Iraniens rendent hommage à leur président défunt 48 heures après l'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie d'Ebrahim Raisi et de 7 autres personnes. Des dizaines de milliers d'Iraniens se sont rassemblés ce matin pour le début des cérémonies de funérailles à Tabriz, dans la province de l'Azerbaïdjan oriental où s'est produit l'accident.
En Colombie, on apprend que le chef de l'armée est limogé.
Oui, qu'une explication n'a été donnée à la mise à l'écart du général Luis Ospina, mais c'est tout sauf une surprise. Cet officier supérieur était la cible des critiques, Christophe Paget, aussi bien pour la dégradation sécuritaire en Colombie qu'à propos d'un scandale autour de sa vie privée.
Oui, le général Luis Ospina était arrivé à la tête de l'armée en 2022 dans les bagages du président de gauche, Gustavo Petro, qui vient de le remplacer donc par le major général à la retraite, Luis Emilio Cardoso Santamaría. Il faut dire que la position du désormais ex-chef de l'armée était difficilement tenable. Depuis l'an dernier, il faisait l'objet d'une enquête pour avoir, selon la presse, mis sa femme sur écoute par jalousie, utilisant les services de renseignement de l'État pour un usage privé. La semaine dernière, les médias locaux affirmaient qu'il faisait aussi l'objet d'une enquête pour avoir faussement accusé un général de lien avec des guérilleros. Autre point noir, la situation sécuritaire dans le pays qui se dégrade, malgré les promesses du président Petro d'une paix totale. Hier encore, 4 personnes, dont 2 policiers, ont été tuées lors d'attaques dans le sud-ouest. En octobre dernier, des négociations avaient débuté avec l'état-major central, la principale dissidence de la guérilla des FARC, négociations abandonnées depuis par une partie des combattants qui ont repris les hostilités. Selon le ministre de la Défense, la grande expérience et l'autorité du nouveau chef de l'armée seront fondamentales pour continuer à renforcer la sécurité et la défense de la Colombie.
Christophe Paget en direct dans ce journal, merci à vous. Enfin en bref, Emmanuel Macron s'envole dès ce soir pour la Nouvelle-Calédonie pour y installer une mission. Cela fait maintenant une semaine que des violences et des blocages secouent ce territoire français du Pacifique Sud. Rappelons qu'ils ont fait 6 morts. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, évalue à plus de 14 000 les Ukrainiens déplacés par les combats dans la région de Kharkiv. Moscou a lancé une offensive d'ampleur le 10 mai. Enfin, une première en France, le premier procès des crimes du régime de Bachar al-Assad. Il s'est ouvert devant la cour d'assises de Paris. Il se tient en l'absence des accusés, 3 hauts responsables du régime de Damas. Ils sont jugés pour leur implication présumée dans l'enlèvement, la torture et l'assassinat d'un père et de son fils franco-syrien.
Merci Gilles Moreau et à tout à l'heure pour un nouveau journal. RFI Midi, dernière partie. Nous sommes en Haïti pendant les 20 prochaines minutes.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Vous pouvez le suivre depuis ce matin sur notre antenne. RFI vous propose aujourd'hui une journée spéciale. Quel avenir pour Haïti ? Nous parlions il y a une heure de l'emprise des gangs et des armes qui continuent d'arriver dans le pays. Nous nous penchons maintenant sur la difficulté d'informer. De plus en plus grande, les journalistes ne peuvent plus travailler librement, ou pas partout. Et pas tout le temps. Nous allons en parler avec plusieurs confrères que vous entendez régulièrement sur cette antenne. Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press, Franz Duval, rédacteur en chef du grand quotidien Le Nouvelliste, Widler Mérancourt, éditeur en chef du site de référence et d'enquête à Ibopost, et puis à mes côtés, en studio, Ronel Paul, ancien correspondant de RFI au Gonaïves. Bonjour à tous les 4.
Bonjour Anne et bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler de votre travail. D'abord, j'aimerais qu'on donne la parole à une autre voix qu'on entend souvent dans cette émission, celle de Marie-Andrée Bellange, correspondante de RFI à Port-au-Prince, malgré les risques. Marie-Andrée nous a raconté ce matin comment elle faisait pour travailler dans une capitale où les gangs font la loi presque partout et peuvent semer la terreur dans des quartiers entiers.
En Haïti, quand on est journaliste, on est confronté à de multiples défis. Mais ces derniers temps, le plus important est celui de la sécurité. Mes déplacements sont limités et me rendre sur le terrain est très difficile. Je me déplace généralement en moto car c'est plus facile de s'échapper s'il y a un problème et lorsque les routes sont bloquées, c'est la seule façon de se rendre dans certains quartiers. Je ne pars pas sur le terrain sans dire à des proches où je vais. Et avant de me rendre quelque part, je m'informe sur la zone ou je me fais accompagner par quelqu'un qui la connaît. Je m'assure également d'avoir mon badge et mon matériel de travail pour être clairement identifié, même si parfois des gens se montrent très agressifs envers les journalistes. L'autre défi, c'est celui de l'accès à l'information et sa vérification. Certaines zones de Port-au-Prince ne sont plus accessibles. On ne peut pas non plus se déplacer en province. Avant cette crise, avoir accès aux informations était un vrai casse-tête, mais maintenant, c'est encore pire.
C'est encore pire, nous dit notre correspondante à Port-au-Prince, Widler Mérancourt, éditeur en chef du site Aïbo Post. C'est aussi ce que vous constatez ?
Oui, je pense qu'il s'agit d'un très bon résumé de la situation. Je rajouterais probablement qu'il y a des difficultés pour les responsables de médias de traiter avec des employés qui sont parfois dans des zones contrôlées par des gangs. Nous avons par exemple à Aïbo Post dû aider au déménagement d'une demi-douzaine de collègues qui vivaient dans des zones contrôlées par des gangs. Et puis la rue, comme votre correspondante l'a si bien dit, elle est extrêmement violente. Faire des déplacements s'avère extrêmement compliqué dans un contexte d'impunité presque totale.
Alors, dans ce contexte, comment est-ce que les journalistes peuvent se protéger ? Godson Pierre, vous, comment faites-vous avec vos équipes d'Alter Press ?
Eh bien, je pense que c'est exactement la même situation que pour Aïbo Post ou pour tout média aujourd'hui en Haïti. Et on doit se préoccuper des gens qui travaillent avec nous, qui travaillent pour nous, des confrères, consoeurs, mais aussi du local, du média, et du matériel. Et donc, tout est à risque dans ce contexte-là. Et donc, c'est la préoccupation tout le temps. Et en plus, il y a une charge de travail sur ceux qui sont plus ou moins disponibles. Et puis, les équipes sont réduites puisqu'on ne peut pas garder tout le monde avec les difficultés économiques. Donc, à tous les points de vue, c'est une situation qui est plus difficile qu'avant.
Est-ce que ça a des conséquences sur le choix des sujets que vous décidez de traiter ?
Tout à fait. D'une part, on doit bien entendu, suivant la ligne éditoriale, rester en phase avec nos objectifs, mais aussi on doit bien choisir les éléments sur lesquels on peut trouver de l'information pertinente. Et après, ça prend du temps pour définir notre carte d'information. Il y a des informations qui s'imposent tous les jours, mais il y a d'autres sur lesquelles on travaille plus longtemps et donc notre panorama d'informations aussi se réduit plus ou moins.
Vous nous décrivez une situation qui est difficile. Cette situation, elle s'est considérablement dégradée ces derniers mois, mais il faut se rappeler aussi qu'elle était déjà critique avant. Reporters sans frontières rappelait récemment dans une tribune, que plusieurs d'entre vous avaient signé d'ailleurs, que 6 professionnels des médias avaient été tués depuis 2022. La menace, elle est très grande. Vous en savez quelque chose au Nouvelliste, Franz Duval, puisqu'il y a 2 ans, l'un de vos collègues avait été victime d'une tentative d'assassinat. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'était passé à ce moment-là et depuis ?
Tout à fait. Robertson Alphonse, qui est le directeur de l'information de Magic 9 et responsable de l'actualité nationale sur le Nouvelliste, était en route pour aller participer à la matinale qu'il anime sur Magic 9. Quand il a été pris dans un guet-apens, on a ouvert le feu sur son véhicule, il a été blessé lui-même, il a échappé de peu à la mort et il est sorti de chez lui ce matin-là. Il n'est jamais rentré. Il a été à l'hôpital, il est parti directement pour les États-Unis où il a trouvé refuge depuis lors. Et cela est un coup très dur pour l'équipe, mais pour la presse haïtienne en général, parce que Robertson Alphonse est quelqu'un de très connu. Mais il faut dire que tout cela arrivait dans une espèce d'escalade. Déjà, des journalistes avaient dû laisser la zone de Carrefour, ils habitaient. Quand Marty Saint ayant été pris par les bandits, c'était difficile pour les équipes de passer à des heures quasi fixes, puisque c'est des gens qui vont travailler tous les jours, quasiment aux mêmes heures, qui rentrent chez elles, et ils avaient dû déménager. Il faut dire que le Nouvelliste, depuis près de 3 ans, on est en train de s'ajuster, et s'ajuster pour que nos équipes changent d'adresse et pour travailler aussi autrement. Le journal est passé quasiment de façon intuitive à la production électronique de nos articles, à la production électronique du journal. Et aujourd'hui, que le Nouvelliste n'a plus accès à ses presses, à son imprimerie, depuis maintenant 3 mois, eh bien, tout se fait sur la version électronique du journal. Mais ça empêche que les journalistes qui prennent les rues à chaque fois sont ou victimes, je dirais, de la peur qui frappe tous les Haïtiens, ou doivent prendre des précautions infinies pour sortir, faire leur travail et rentrer chez eux.
Oui, c'est ça, c'est que ces ajustements, ils sont aussi très concrets. Par exemple, vous aviez décidé de quitter les locaux du journal. Et d'ailleurs, Franz, récemment, ces locaux ont été attaqués et pillés.
Alors, on avait laissé les locaux, enfin l'équipe, les journalistes avaient laissé les locaux depuis 1 an et demi, car devant le journal, un collaborateur avait été atteint d'une balle perdue. Ensuite, en face du journal, il y avait eu des attaques contre certaines personnalités. Alors, les journalistes n'étaient plus là. Sauf que la presse, c'est une installation industrielle. En réalité, on n'imagine pas ce que cela veut dire faire un journal papier et au quotidien. C'est des installations qu'on ne pouvait pas déplacer. Et le Nouvelliste était encore produit à la rue du Centre, au centre de Port-au-Prince. Et malheureusement, depuis le 29 février, la situation s'est dégradée. Et il y a quasiment un mois depuis que nous sommes sans contrôle du local et de ce qui se passe avec les installations du Nouvelliste. On ne peut même pas aller faire le constat légal, car le centre-ville de Port-au-Prince est totalement abandonné et totalement sous contrôle des gangs. Même le palais national, le conseil présidentiel ne peut pas s'y installer parce que la zone est inaccessible.
Donc une menace de plus en plus grande. Et il y a des fois où cette menace, elle est tout simplement trop grave. Là, je me tourne vers vous, Ronel Paul, puisque vous avez estimé que vous ne pouviez plus rester en Haïti.
Évidemment, je ne pouvais pas y rester. C'est pourquoi, lorsque j'étais venu récupérer le prix Philippe Chavrangeon que j'ai remporté en 2023, donc je n'ai pas retourné parce que là-bas, j'avais commencé à recevoir des menaces de mort, à la fois sur Internet, directement sur mon téléphone. Et des groupes de gangs étaient au courant de ce que je faisais, des reportages de terrain que je faisais souvent. Donc, il y a certains endroits dans lesquels je ne pouvais pas y retourner parce qu'ils avaient dit que si j'y retourne, eh bien, soit ils me tabasseraient ou ils me tueraient directement. Donc, c'était impossible pour moi de retourner en Haïti parce que je ne pouvais pas travailler. Et parce que moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est des reportages de terrain. Je ne pourrais pas me contenter de rester au studio, faire des interviews à distance parce qu'il manquerait beaucoup de choses.
Vous avez depuis demandé l'asile en France, que vous avez obtenu.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment est-ce que vous avez vécu, vous, le fait de prendre cette décision majeure, évidemment, et puis votre arrivée ici en France?
Ben ouais, c'était vraiment un coup dur, parce que là-bas, il y avait beaucoup de choses à faire. Par exemple, dans le milieu médiatique haïtien, il n'y a pas vraiment des reportages de terrain comme moi, j'ai l'habitude de le faire. Donc, c'est vraiment un coup dur pour moi de pouvoir quitter cette mission que j'avais commencée et puis pour venir m'installer dans un pays où il faut tout recommencer. Il faut absolument tout recommencer. Donc, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur pour moi d'abord de prendre cette décision de ne pas retourner dans mon pays. Et en plus, le fait d'avoir le statut de réfugié. Donc, en étant en exil, on ne peut pas retourner dans le pays après un certain temps. Donc, ça, c'est loin de sa famille, de tout, quoi.
Ronald Paul, vous restez avec nous. Bien sûr, on parle toujours avec nos quatre invités du difficile travail de journaliste en Haïti. Godson Pierre, directeur d'Alter Press, à quoi il ressemble aujourd'hui ce travail concrètement ?
À quoi, pardon ?
À quoi il ressemble ce travail de journaliste compte tenu de toutes les menaces et de toutes les difficultés dont on parle depuis quelques minutes maintenant ?
Eh bien là, on vit avec le métier. Ce que je veux dire par là, c'est que notre milieu de vie devient source d'information. C'est-à-dire le fait de laisser le bureau, le fait de laisser notre local pour aller chez nous, eh bien, on observe. Et puis donc, on essaie d'informer aussi notre public. On reste en contact avec les acteurs étatiques, quelquefois non étatiques aussi, des milieux sociaux, des milieux culturels, sportifs. On interpelle les acteurs, les actrices. Et c'est un travail quotidien. On est témoin dans la mesure du possible, mais il y a de moins en moins de possibilités d'être témoin. On reste à l'affût d'expressions qu'on peut capter sur les réseaux. On consulte de la documentation. On donne la parole comme on peut, mais sauf que aujourd'hui, les victimes qui doivent s'exprimer ont de moins en moins accès aux médias, aux journalistes en général. Et une bonne partie d'entre elles demeure inaudible, on doit le reconnaître. Et puis, pour nous, à Alter Press, organismes de défense des droits humains, des organismes de défense des droits des femmes. Et souvent, c'est par l'intermédiaire de ces organismes qu'on arrive à avoir accès à certains témoignages.
Et à obtenir des informations, puisqu'on comprend bien qu'il est de plus en plus difficile de les recueillir, ces témoignages. Comment est-ce que vous l'observez, vous, Widler Mérancourt, dont le travail est justement de faire un travail d'enquête, de recherche d'informations? Comment on fait quand il est de plus en plus difficile d'accéder à des témoins et à des informations de première main, comme on dit?
Ouais, ça reste extrêmement difficile. Quelqu'un a parlé de recommencement, pour les journalistes qui quittent le pays à cause de la situation. Ce recommencement s'observe aussi de la part des médias. Nous avons perdu une bonne partie de notre personnel à cause de la situation. Et la nature même du travail qu'on fait à Ibo Post, là, le journalisme d'investigation est extrêmement dangereux en Haïti. Nous recevons des menaces directement. Et il est de plus en plus difficile de convaincre des jeunes de venir dans le métier et de faire ce travail. Donc aller sur le terrain, c'est extrêmement difficile. Le métier est assez ingrat. Le contexte de l'exercice de ce métier reste très difficile. L'impunité... on est dans un contexte où toute menace doit être prise au sérieux, parce qu'il est très 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 facile de tuer quelqu'un ici en Haïti, et à cause de l'absence totale d'une infrastructure judiciaire qui puisse gérer ces situations, rendre des décisions et tenir pour responsables.
Et dans ce contexte, comment est-ce que vous faites pour vérifier les informations que vous obtenez?
Bon, on arrive quand même à opérer. Il y a moyen de se rendre sur le terrain, il y a moyen de prendre des précautions et d'aller rencontrer des sources, notamment dans des endroits non publics pour récupérer des documents, etc. Il y a moyen, par exemple, de visiter autant que possible les camps de déplacés. Mais ça vient avec un risque supplémentaire, non seulement à cause du contexte. Le journaliste haïtien est exposé à la violence, tout comme le citoyen ordinaire y est exposé. Mais le travail même du journaliste l'expose encore beaucoup plus, parce que on ne sait jamais quel gang, quel chef de gang.
Oui, et on fait parfois une cible. On l'a entendu tout à l'heure, ce que nous expliquait Franz Duval. Franz, est-ce qu'il y a pour vous et pour vos équipes du Nouvelliste des mesures très concrètes qui sont mises en place, des heures à éviter par exemple, ou des moyens de locomotion à privilégier? On entendait notre correspondante nous dire qu'elle, elle préférait la moto par exemple.
Alors, il faut dire que dans le cas du Nouvelliste, on essaie de limiter le plus que possible les sorties, mais vraiment le plus que possible les sorties. Les journalistes qui habitent dans certains quartiers savent que des fois, il ne faut pas venir travailler. Et ça, on l'a totalement adapté à notre programmation. Et comme je le disais, le Nouvelliste a vécu ces dernières années un rétrécissement de tous ses champs. Le premier champ qu'on a perdu, c'est celui de nos abonnés, parce que le Nouvelliste, c'est un journal d'abonnés. Mais il y a tellement de quartiers où on ne peut plus aller livrer le journal que bien avant la prise de nos locaux, le journal ne pouvait pas être distribué. Mais c'est aussi la même chose pour les employés du Nouvelliste et la même chose pour les journalistes du Nouvelliste. Certains ont dû déménager, certains passent des fois des semaines sans sortir de chez eux, sans venir au journal, ça on l'a compris, et on travaille à distance.
Et on comprend bien en vous écoutant, Franz, à quel point cette situation difficile et le fait qu'elle dure depuis si longtemps a des conséquences très lourdes sur la structure même des journaux et le travail des médias. Godson Pierre, il y a eu beaucoup de crises en Haïti. Est-ce que celle-ci vous semble particulière et est-ce qu'elle vous oblige, vous, à Alter Press, à modifier le fonctionnement même du journalisme et de la manière de traiter l'information ?
Ah, totalement. Le fonctionnement surtout, bon, là, on a toujours le même souci dans le traitement de l'information, mais le fonctionnement, comme le disait Franz, eh bien, on est une équipe de plus en plus réduite et puis l'équipe n'est pas disponible tous les jours et donc on s'adapte, on ne sait jamais quand est-ce qu'un problème va se présenter et donc voilà, c'est une adaptation au quotidien. Mais ce que je dirais, c'est que vraiment, depuis les années 80, 90 et 2000, on n'a jamais vu ça. Donc, sous Duvalier, pratiquer le journalisme était très, très difficile, mais le journalisme se pratiquait quand même. Mais là, aujourd'hui, c'est l'existence même des médias, je dirais, et de l'exercice du journalisme qui sont remises en question, qui sont remises en cause, et surtout que... À côté de cette crise, puisque la crise est multidimensionnelle, il y a aussi d'autres défis, il y a d'autres bouleversements. Donc aujourd'hui, on est en train de subir la crise. On survit, et même sans grand espoir de durer.
Mais notamment parce qu'aujourd'hui, il y a une absence quasi totale de financement. Widler Mérancourt, comment est-ce que vous fonctionnez, vous, avec votre site Aïbo Post?
Je pense que c'est l'épineuse question du financement et c'est aussi là que se joue l'avenir de l'information de qualité en Haïti. Je pense qu'on est au même endroit que les autres médias du pays, c'est-à-dire on fait face à un problème, à une question fondamentale sur comment est-ce qu'on va continuer à opérer de façon soutenable dans un contexte où la plupart des projets qu'on peut avoir sont stoppés à cause de la situation d'insécurité. Les organismes avec lesquels on a une structure de financement assez diversifiée où l'on a créé un studio de production multimédia qui constitue le bras financier principal d'Aïbo Post, mais à cause du contexte de l'insécurité, la plupart de nos partenaires ne travaillent pas correctement. On fait aussi des partenariats avec d'autres institutions indépendantes qui respectent notre indépendance éditoriale. Mais là encore, c'est assez difficile d'opérer. Je pense que ce problème ne s'applique pas uniquement à Aïbo Post comme.
Non, ça concerne effectivement d'autres journaux. Peut-être on peut vous donner la parole, Franz Duval. Il nous reste très très peu de temps, mais comment est-ce que vous vivez, par exemple, au sein de votre journal, la disparition quasi totale de la pub?
Bon, on a perdu les abonnés, on est en train de perdre la publicité parce que la situation économique en Haïti se dégrade tout autant que la situation sécuritaire. En réalité, les médias existent encore, je dirais presque par habitude. C'est plus un projet économique, c'est plus un projet viable, mais le pire est à venir parce que la situation sécuritaire va continuer à se dégrader. Il se passe des choses en province en Haïti ces jours-ci, on n'en parle pas, mais il y a les armes qui sont de plus en plus répandues dans quasiment tout le pays. Et les gangs sont en train de recruter à tour de bras de plus en plus de jeunes membres,
Une situation qui risque d'empirer encore davantage avec des conséquences dont on parlait tout à l'heure, Ronel Paul. On n'a plus le temps malheureusement de l'évoquer à l'antenne, mais vous nous disiez qu'une des conséquences malheureusement, c'est qu'en fait beaucoup de journalistes travaillent aujourd'hui bénévolement et n'ont pas de rémunération avec les risques que ça comprend évidemment pour leur indépendance. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous tous les quatre, Godson Pierre, Franz Duval, Widler Mérancourt et Ronel Paul. Restez à l'écoute sur RFI, notre édition spéciale se poursuit.
Du 16 mai au 2 juin, rendez-vous avec les semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Partout en France, des centaines d'événements sont au programme. Expositions, débats, concerts, projections de films, dégustations, bals et spectacles de danse pour célébrer le savoir, la culture, la création et la fête. Plus d'informations sur semaineamericelatinecaraïbes.fr, une initiative du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En partenariat avec France Média Monde.